Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Royan-Vercors. C'est une émission spéciale réalisée aujourd'hui depuis le festival Texte en l'air, puisque nous sommes actuellement dans la grande cour de Saint-Antoine, l'abbaye. C'est ce joli village médiéval du sud du Grésivaudan, où le coup d'envoi du festival Texte en l'air 19e édition a été donné ce mercredi 26 juillet, en fin d'après-midi. Le festival se tient jusqu'au dimanche 30 juillet et propose plus de 40 rendez-vous, théâtre, poésie, chansons. Un vaste programme que nous allons découvrir et détailler ensemble au cours de cette émission. Et notamment en échangeant avec nos différents invités, puisque nous aurons le plaisir donc d'échanger aujourd'hui avec Valérie Charpinet, directrice artistique de Texte en l'air, ainsi qu'avec Jules Benveniste, auteur, metteur en scène et acteur pour la pièce Pleure pas papa, à voir donc à 17h ce vendredi 28 juillet. Avec nous également Karima Elkaraz, l'une des deux autrices en résidence à Texte en l'air pour l'année 2023. Enfin, nous discuterons avec Lucas et Luna, deux jeunes bénévoles qui ont participé au stage Jeunes en immersion durant le festival. Je vous rappelle donc que Radio Royan a pris ses quartiers d'été et que nous vous proposons chaque jour du lundi au vendredi un magazine touristique. Une émission d'une heure à écouter sur nos ondes à 9h, à midi et à 18h et que vous pouvez retrouver également sur radioroyan.fr. Jour après jour, retrouvez nos bons plans sortis, l'agenda du territoire, des chroniques immersives dans des lieux à découvrir ainsi que des interviews ou des reportages. Et ces magazines touristiques sont réalisés en collaboration avec nos partenaires. Donc tout d'abord le festival Texte en l'air qui nous accueille aujourd'hui à Saint-Antoine-l'Abbaye, ainsi que le festival des chapelles Royan-Vercors. Également la grotte de Choranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royan, ainsi que le jardin des fontaines pétrifiantes à La Saône. Plusieurs musées donc à nos côtés également, le musée départemental de la Résistance, le mémorial de la Résistance, ainsi que le musée de la Préhistoire à Vassieux en Vercors. Enfin, nous remercions aussi le grand séchoir maison du Pays de la Noix à Vinay, le musée de l'eau de Pont-en-Royan et la maison musée des Amis de la mémoire du Royan à Rochechinard. Sans oublier les offices de tourisme Vercordrome et le site Indians Valley à Beauregard-Barré. Je vous annonce tout de suite le menu de ce magazine touristique du jour. Pour débuter, nous mettrons tout d'abord à l'honneur le festival Texte en l'air avec bien sûr nos différents invités et la programmation foisonnante de cette 19e édition du festival. Vous retrouverez également l'agenda du territoire avec le détail des activités et des sorties proposées aujourd'hui et dans les jours à venir dans le sud Grésivaudan et le Royan-Vercors. Notre agenda sera ponctué de plusieurs respirations sonores. Pour notre première chronique d'évasion touristique, nous nous immergerons dans la fraîcheur du jardin des fontaines pétrifiantes dans le village de La Saône, qui allie poésie et botanique et laisse libre cours à la créativité des jardiniers. Nous vous proposerons également un focus sur le deuxième apéro-musée de l'été au Grand Séchoir, qui aura lieu donc ce vendredi 28 juillet à 19h, avec un groupe grenoblois, Ginger Sweets. Enfin, notre deuxième chronique touristique nous emmènera visiter la maison-musée des Amis de la mémoire du Royan à Rochechinard pour une découverte de leur exposition permanente. On débute tout de suite ce magazine touristique donc dans la grande cour de Saint-Antoine-l'Abbaye alors que le festival Texte en l'air bat son plein jusqu'au dimanche 30 juillet. Et nous sommes maintenant en compagnie de Valérie Charpinet, directrice artistique de Texte en l'air. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous.
Valérie, c'est la 19e édition du festival et le coup d'envoi donc a été donné mercredi. À mi-chemin, quelles sont vos premières impressions ?
Eh bien, c'est une édition qui commence avec le soleil, déjà, c'est bien. Et beaucoup, beaucoup de monde a rejoint la grande cour pour l'inauguration et pour le premier concert avec la meute et le spectacle du soir. Donc, je dirais que ça démarre sous de très bons auspices. Cet après-midi aussi, nous faisons le plein sur les spectacles jeunes publics. Voilà, donc tout va bien pour le moment, jusque-là. Magnifique.
Tout va pour le mieux. Le soleil, mais aussi la fraîcheur, puisqu'on n'a pas trop chaud, ce qui est très appréciable.
Exactement. Voilà.
Donc, on parlait du fait que c'était donc la 19e édition cette année. Comment vous est venue, donc, en 2004, l'idée de créer ce festival autour des mots ?
Alors, Cette idée est venue dans la tête de personnes qui ont créé le festival. Je n'étais pas là à l'époque. Et donc, il y avait déjà quelqu'un qui avait créé quelque chose autour de la poésie ici, qui s'appelle Gilbert Vincent Cabou. Et en fait, l'idée, ça a été vraiment de faire résonner des textes d'auteurs contemporains au milieu d'un village historique, classé un des plus beaux villages de France. Et donc, c'était vraiment l'idée de faire résonner des textes d'aujourd'hui avec les vieilles pierres.
Et donc, 19 ans plus tard, 20 ans plus tard même, nous sommes toujours donc à Saint-Antoine, dans ce même lieu qui est effectivement un lieu assez exceptionnel. Peut-être qu'on peut le décrire à nos auditeurs et à nos auditrices.
Oui, alors Saint-Antoine-l'Abbaye est un des plus beaux villages de France. On entend les cloches peut-être d'ailleurs de l'abbaye, de l'abbatiale. Donc là, nous sommes présentement dans la grande cour, donc qui est le cœur du festival, où on peut retrouver tout l'accueil, billetterie, librairie, buvette et l'espace concert. Et ensuite, si on continue à avancer dans cette grande cour face à l'abbatiale, on va se diriger vers la droite, vers le musée, et on va rencontrer donc la basse-cour. Donc c'est vraiment un village où on peut aussi se perdre dans les petites rues, se perdre dans des goulets. Il y a des petits goulets, donc des goulets qui nous permettent de rejoindre deux rues et qui passent souvent sous des maisons. Donc c'est très amusant aussi de se promener dans le village et de visiter comme ça, évidemment, à pied, de faire tout le tour de ce village.
On peut faire un parallèle entre le dédale des mots et le dédale des rues.
Donc absolument, et d'ailleurs nous avons beaucoup fait de pérégrinations dans ces rues pour les occuper. On essaie d'occuper aussi tous les espaces du village. Il y a une très belle halle en bas du village. Il y avait un spectacle tout à l'heure hier dans cette halle. Et donc il offre vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir, à découvrir. C'est une très belle journée, un moment à passer si on vient à Saint-Antoine. Et il y a un musée, un musée départemental aussi très intéressant à visiter.
Tout à fait. Et donc le festival dure quelques jours, donc du 26 au 30 juillet cette année 2023. Mais j'imagine que c'est beaucoup de travail dans les mois qui précèdent. Comment est-ce que vous organisez donc pour donner lieu à ce festival?
Alors les idées de programmation arrivent très tôt, puisque moi, juste avant de lancer le festival Texte en l'air, je vais au Festival d'Avignon voir certains spectacles, donc je dirais presque un an à l'avance, et puis un petit peu tout au long de l'année. Et ensuite le gros du travail va commencer à partir doucement en janvier, et évidemment s'intensifier de plus en plus plus on se rapproche, puisqu'il y a énormément de logistique aussi à faire autour d'un festival pareil. Il y a énormément de liens à avoir, parce que par exemple tous nos artistes sont accueillis par des Antonins, des gens qui habitent le village ou les environs du village. Donc il y a, voilà, donc il y a tout ce contact humain à entretenir, à créer, et cette organisation à avoir pour que tout soit au près le jour J.
Donc les Antonins, c'est le nom des habitants de Saint-Antoine-l'Abbaye?
Absolument.
Et donc vous êtes une équipe de combien de personnes pour arriver à organiser ce festival?
Alors, dans l'équipe salariée, nous sommes deux, une administratrice et donc moi en directrice. Il y a un conseil d'administration, puisque nous sommes une association, donc il y a un conseil d'administration qui travaille tout au long de l'année. Et puis, nous rejoignent entre 60 et 80 bénévoles au moment du festival, qui sont là du dimanche avant le festival pour monter tout ce site-là et jusqu'au mardi après le festival, donc pour démonter. Et entre les deux, toutes les missions qu'il y a à faire d'accueil, cuisine, buvette, accueil de spectateurs, accueil d'artistes, voilà.
Une équipe qui est fidèle d'année en année ou qui se renouvelle ?
Alors, il y a un peu les deux. C'est-à-dire que nous avons de grands fidèles, et puis quelques fidèles qui, évidemment, en avançant en âge, laissent la place à une autre génération qui arrive. Et là, depuis 2 ans, je dirais, justement, le Covid ayant un peu bousculé les choses, là, maintenant, on retrouve un nouveau souffle avec beaucoup de jeunes qui arrivent de nouveau pour renforcer les rangs.
Et peut-être un mot sur l'association Texte en l'air. Donc vous organisez ce festival tout au long de l'année, mais est-ce que vous avez d'autres activités également?
Ah oui, bien sûr. Texte en l'air, c'est au départ aussi, c'est un lieu d'accueil pour des autrices ou des auteurs en résidence d'écriture. Donc on accueille 2 personnes par an qui vont séjourner à Saint-Antoine, qui arrivent avec un projet d'écriture de théâtre. Et là, par exemple, à cet automne, nous accueillerons Karima Elkaraz et qui va faire des interventions, des médiations en médiathèque, atelier d'écriture, lecture, mais également rencontrer des collégiens, des lycéens. Donc il y a vraiment des activités absolument toute l'année. On travaille aussi avec les écoles du territoire sur un projet qui touche 10 écoles à peu près par an et qui va aussi travailler autour des écritures jeunesse contemporaines. Donc ça, c'est toujours notre ADN, mais on intervient comme ça. On a des activités à peu près de septembre à juin et ensuite le festival.
Eh bien, merci beaucoup Valérie. Donc Valérie Charpinet, directrice artistique de Texte en l'air, donc pour nous avoir livré vos premières impressions sur la 19e édition de ce festival, donc qui se tient jusqu'au 30 juillet, jusqu'au dimanche 30 juillet à Saint-Antoine-l'Abbaye.
Merci.
Nous sommes toujours donc en public au festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye et nous accueillons donc maintenant autour de la table Jules Benveniste qui signe l'écriture mais aussi la mise en scène et qui joue dans la pièce Pleure pas papa que vous pourrez voir donc à 17h ce vendredi 28 juillet au théâtre du Furan. Bonjour Jules.
Bonjour.
Donc vous participez au festival Texte en l'air dans le cadre du programme Les Envolées, qui est donc un dispositif d'accompagnement pour les jeunes compagnies de la région. Comment cela se déroule pour participer donc à ce programme ?
Pour participer aux Envolées, qui est, je crois que ça se définit comme une biennale pour la jeune création artistique. C'est-à-dire que c'est un ensemble de lieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble pour fournir des moyens de création, de production et de diffusion pour des spectacles de jeunes compagnies de la région et qui a lieu une fois tous les deux ans. Donc pour participer, c'est assez classique, il faut avoir un dossier, il faut participer à un appel à projet et il faut remplir les conditions puis envoyer toute la documentation demandée. Et après, c'était sur sélection. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de projets. Et puis, il y a eu une première sélection. Et puis, on est trois projets lauréats donc qui joueront aujourd'hui, demain et après-demain. La date à Saint-Antoine, c'est une des 10 dates qu'on va faire avec ce dispositif. Donc, il y en a déjà eu en avril autour de Grenoble. Et il y en aura en automne à Lyon.
Donc là, c'est la deuxième date au Festival Texte en l'air ?
C'est la deuxième série, c'est-à-dire qu'on a fait 4 dates en avril, on va avoir une date ici, et puis on a 5 dates en automne. Donc c'est la cinquième.
Vous commencez à être rodé.
Un peu, oui.
Et lors de la phase de sélection des projets, est-ce que le projet était déjà abouti ou c'était vraiment les prémices ?
Non. En ce qui concerne Pleure pas papa, c'est la première chose que je fais avec la compagnie Bougie Toto dont je suis à l'origine avec une femme, une personne qui m'accompagne aussi qui s'appelle Caroline Otupal et qui est la présidente de la compagnie. On a décidé de pas se lancer. Enfin, moi j'avais envie de faire un peu la production avant pour pas. Enfin. L'idée, c'est quand même d'essayer le plus possible de rémunérer les personnes qui travaillent dans l'équipe. Et c'est difficile quand on démarre. Donc j'ai attendu longtemps. Il y a eu le Covid en plus, l'écriture a pris du temps. Au début, je voulais jouer. Puis après, je me suis dit que j'allais monter une compagnie, donc je n'allais pas jouer dans le spectacle. Je voulais vraiment me mettre en scène. Puis finalement, j'ai quand même joué pour des histoires de vie. Je me suis dit qu'il fallait attendre. Et puis j'ai postulé à plusieurs choses. Et quand les envolées sont arrivées, il n'y avait plus le temps d'attendre. On avait très peu de temps pour tout faire. On a encastré un calendrier et on a fait une sorte de ligne droite où le spectacle est sorti un peu comme un champignon après la pluie, quoi.
En combien de temps ?
On a répété, si je somme les journées de travail, on a répété, je pense, 15 jours ou 18, 2 semaines et demie, quoi.
Une création express, alors.
Oui, mais qui a mûri longtemps, en fait. Enfin, moi, j'avais aussi écrit, j'ai travaillé avec un comédien pendant les deux premières résidences. Et après, le comédien n'a pas pu suivre. Et donc, quand j'ai finalement décidé de jouer, on a pris la décision collégiale que j'allais jouer le spectacle parce que c'était la seule issue faisable dans les temps qu'on avait. En fait, tout était déjà là. Il fallait juste peaufiner. Et c'est très intéressant en tant que comédien. Moi, je commence dans le théâtre comme comédien au début. C'est très intéressant de voir se dire qu'il n'y a pas une seule figure qui regarde. C'est très déstabilisant de ne pas avoir de metteur en scène extérieur. mais ça oblige un peu toutes les personnes à sentir les choses. Donc à presque... en fait, quand on a pris cette décision, j'ai dit à l'équipe, en fait, maintenant, on est chacun un individu, plus un peu, plus quelque chose en plus. C'est-à-dire, il y a un peu plein de petits jeux, et puis il y a un grand nous qui va créer cette espèce de figure manquante. Et Pleure pas papa tient un peu sur cette absence, présence-absence, quoi. Donc c'est une forme assez fragile, je pense, mais qui a une force dans cette fragilité-là.
C'est une approche plus collective de la création, j'ai l'impression.
Oui, absolument. Il y a des savoir-faire à l'intérieur qui sont requis en premier, disons, à la surface des choses, quoi. Il y a une personne qui fait du son, qui sait faire du son. Il y a une personne qui fait de la lumière, qui sait faire de la lumière. Moi, je connais les outils pour jouer, mais dans le fond, le collectif, il est demandé dans le... Il y a un engagement aussi, disons, plus personnel, plus... Qu'est-ce que ça veut dire être présent dans un lieu avec d'autres personnes et faire quelque chose en commun ? C'est pas simplement faire, c'est aussi être quelque part et essayer d'être traversé par ce qui se passe. Donc, il y a des personnes qui ont dit des choses qui n'appartenaient pas à leur savoir-faire et qui ont illuminé le spectacle avec ces considérations-là parce qu'elles se sont autorisées simplement à être là et à sentir ce qui se passait.
Et au niveau de l'encadrement, donc une fois que vous étiez donc dans le cadre de ce projet Les Envolées, quel était l'accompagnement dont vous bénéficiez ?
Ben, on a eu de l'accueil en résidence. On a été accueillis, nous, au Théâtre de l'Élysée à Lyon et au Poteau Noir à Saint-Paul-les-Monestiers. Cet accueil-là, c'était déjà... à Saint-Paul, c'était un accueil complet. C'est-à-dire on dormait sur place, on avait une salle pour nous. Il y a un accompagnement pour tout ce qui est défraiement, transport, alimentaire, ce qui fait partie d'une production de théâtre, en fait, en général. Et aussi, il y avait de l'accompagnement artistique avec des personnes qui étaient missionnées en dramaturgie et en scénographie qui sont venues, qui étaient disponibles à la consultation si on en avait besoin, quoi. Donc, en fonction des projets, en fonction des besoins, il y a eu un des projets où il n'y avait pas de scénographe, par exemple, qui a vraiment, eu besoin d'un... Enfin, pour lequel un accompagnement scénographie était vraiment intéressant, quoi. Voilà.
Et donc le résultat de tout cela, c'est la pièce donc Pleure pas papa qu'on pourra découvrir, je vous le rappelle, donc vendredi 28 juillet à Texte en l'air à 17h. Est-ce que vous pouvez nous présenter le résultat de votre travail ?
Mais pour présenter le résultat, il n'y a pas de meilleure façon que de le voir. Et sinon, ce que je peux dire sur la pièce, c'est que c'est l'histoire c'est le récit d'un voyage multiple. C'est-à-dire que c'est tout d'abord quelqu'un qui arrive dans un endroit la nuit, en bord de mer, et qui fait une rencontre d'une personne qui, disons, appartiendrait au lieu. C'est la confrontation entre quelqu'un qui est étranger et quelqu'un qui appartient à un lieu ou qui a l'impression d'y appartenir. Mais c'est aussi, à travers le récit, la tentative de remonter la mémoire, c'est-à-dire c'est assez difficile de raconter des souvenirs marquants, soit parce que quand on les raconte, ils se faufilent ailleurs, soit parce que on n'a pas envie de les raconter. Et la dernière chose, c'est que pour raconter un souvenir, il faut être deux. Donc la rencontre permet en fait de retrouver le sens. Et ça marche pour la personne qui parle. Donc moi, je suis l'acteur qui dit ces mots. Donc je parle à cette personne, à cette témoin. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette personne a la particularité de ne pas parler la langue que moi je parle, mais de répondre avec sa langue à elle, qui est la musique, qui est un saxophone, qui est la régie sur scène, la régie son sur scène, et le fait qu'elle improvise aussi à partir de ce que je dis. Et donc j'avais envie, là c'est disons plus le metteur en scène qui parle, ou peut-être l'écrivain, j'avais envie de mettre à l'épreuve la parole, qui est à la fois française et italienne, j'y reviendrai juste après, avec une autre façon de communiquer qui est le son, qui est le sensible, en fait, pour qu'on puisse l'expérience que j'ai eue dans les autres dates, c'est que les personnes sortent en disant en fait on comprend pas tout, parce qu'il y a c'est aussi une rhapsodie, enfin il y a énormément de textes, c'est quelque chose qui a un rythme, on comprend pas tout, mais on sent très fort qu'il y a quelque chose qui se tisse entre ces deux personnes. Et moi je suis bilingue, j'ai entre français et italien, je raconte pas ma vie dans ce spectacle, je raconte un récit qui pourrait englober différents niveaux de réalité. Ça pourrait être, il y a peut-être des choses qui appartiennent à ma vie, mais il y a des choses qui appartiennent à des choses que je vois autour de moi aujourd'hui. Donc c'est peu importe en fait de ce qui est raconté. Mais ce qui est important pour moi, c'est que les gens puissent aller au théâtre en se disant, personne pourra tout comprendre de ce spectacle, je pense, parce que c'est fait pour. J'avais envie de faire en sorte que les gens puissent se dire, en fait, j'ai plus envie de comprendre, j'ai envie de sentir. C'est ça pour moi la requête que je fais aux spectateurs et aux spectatrices, et je la fais pas en leur demandant de le faire, mais en les mettant dans les conditions, à un moment donné, de lâcher. Ou alors de jamais rentrer dans le travail. Mais ça, ça arrive aussi. Il y a des gens qui... c'est pas le bon moment, c'est pas le bon soir. On se concède aussi. Enfin, je pense qu'il faut se concéder ça aussi quand on va au théâtre, que ce soit celles qui le font ou celles qui y vont, de dire, bon, bah, peut-être ce soir, ça va pas marcher.
Ça peut arriver, donc quelque chose qui se tisse au-delà des mots, donc dans le spectacle Pleure pas papa.
C'est ça.
Donc à retrouver au festival Texte en l'air, je le rappelle une dernière fois, à 17h vendredi 28 juillet. Merci beaucoup Jules Benveniste.
Merci, merci à vous.
Nous nous intéressons donc maintenant au spectacle Mort d'une montagne, que vous pourrez découvrir ce soir, vendredi 28 juillet à 21h30 dans la basse-cour du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. La basse-cour, c'est le lieu des grands spectacles du festival. Ce spectacle donc de la compagnie Les Non-Alignés, qui fut en résidence de création dans un refuge de haute montagne. En effet, donc, le spectacle se déroule dans un massif imaginaire, le massif des Hautes Aigues. Le petit village de Roche-Brune est en alerte depuis que se produisent des éboulements réguliers sur les sommets voisins. Alors que les acteurs du territoire s'interrogent sur l'avenir de la vallée, les pouvoirs publics annoncent la nomination d'un chargé de mission à la transition climatique en montagne, venu faire un diagnostic de territoire. Parallèlement arrive une voyageuse décidée à réaliser l'ascension du sommet majeur de la région, la Grande Reine, dont une partie s'est récemment effondrée. Les auteurs de cette pièce se sont donc emparés d'un sujet d'actualité: quel avenir pour la montagne avec le réchauffement climatique ? Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de cette pièce.
Vous devrez rassurer et travailler à résoudre les conflits.
Quels conflits ?
Le loup, la neige de culture, la fin du tout-ski, la réglementation en haute montagne, l'urbanisation, l'activité pastorale, l'extension immobilière des stations.
Et je commence quand ?
La semaine prochaine.
Tu vois, Bennett, quand on paye sa nuit au refuge du vautour, ben on achète plusieurs choses. Le gîte et le couvert, bien sûr, mais aussi les briefs de Fanny. Et t'as des nouvelles de Pierre ?
Ben c'est toi qui m'en donnes d'habitude.
Pierre, c'est son frère. Un excellent grimpeur et un guide extraordinaire.
Et une exceptionnelle tête de pioche aussi.
Dans les rapports humains comme dans les ascensions, je préfère qu'il y ait une longue marche d'approche et que ça soit pas gagné d'avance.
Refuge du Vautour, j'écoute.
Ouais, Fanny, c'est moi.
Benjamin, tu vas bien ?
Ouais, comme ça peut. Je suis pas très heureux dans mon travail.
C'est avec ton frère et ta sœur que tu t'es entraîné à la résolution des conflits, non ?
Je suis pas sûr qu'il soit très sain de les résoudre, ces conflits. En tout cas, pas de cette manière.
Écoutez, il va falloir qu'on discute un peu de la course. Je sais qu'on a prévu la Grande Reine, seulement voilà. Il y a eu un gros effondrement avant-hier qui a emporté une cordée de Chiliens.
C'est pour la Grande Reine que je suis venue.
Ce serait une connerie de faire la Grande Reine maintenant. Refuge du Vautour pour Pierre Blottier. Refuge du Vautour pour Pierre Blottier. Fanny ! Fanny, tu m'entends ?
On voit pour ne pas penser.
Non, on voit pour écouler les réserves. Oh ! Non, pas ça.
Et laissons les violets ici, tu sens comme autour de nous ça se met à bourdonner comme des abeilles. C'est l'air qui se charge d'électricité statique.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la vérité.
Oh ! Il va pas tenir ton putain de refuge !
Et ça fait 60 ans qu'il est là, il en a vu d'autres, hein ! Le partage enceinte fait cage de Faraday !
Une vraie nuit périlleuse dans le froid et l'inconnu comme aux premières ascensions. Tu es prête ?
C'était donc un extrait de la pièce de la compagnie Les Non-Alignés, Morts d'une montagne, à découvrir ce vendredi 28 juillet à 21h30 dans la basse-cour du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Le tarif donc pour ce spectacle est de 12€. Et je vous rappelle cependant donc que le festival Texte en l'air propose également de très nombreux rendez-vous gratuits donc tout le week-end à Saint-Antoine-l'Abbaye, et notamment les concerts le soir qui sont donc gratuits dans la grande cour du musée. On continue. continue maintenant de parler théâtre en compagnie maintenant de Karima El Karaz, qui est l'une des deux autrices en résidence à Texte en l'air, donc pour cette année 2023. Bonjour Karima.
Bonjour.
Alors pour vous présenter un petit peu, donc vous êtes formée en art du spectacle et en littérature comparée, donc à la fois en France et en Allemagne. Et comme je le disais, donc vous êtes autrice mais également metteuse en scène. Et vous avez notamment fondé la compagnie de théâtre à bout portant. Donc dans le cadre du festival et de l'association Texte en l'air, vous allez donc présenter dans le festival votre projet d'écriture donc qui s'appelle « À droite, le couteau ». Peut-être qu'on peut commencer par parler du contenu de ce projet.
Oui, alors « À droite, le couteau », déjà le titre, en fait, c'est lié à une expérience que j'ai eue, puisque j'ai été nounou. Quand j'étais ado, donc à l'âge de 15 ans, et je me suis retrouvée, donc moi je suis née dans une famille marocaine, et donc on avait l'habitude de manger dans un plat commun, donc soit à la main, soit avec des cuillères, rarement avec la fourchette et le couteau, et je me suis retrouvée dans une famille de chirurgiens, donc, dont je gardais les enfants, et j'ai découvert la manière de mettre la table dans une famille française, et donc cette histoire de mettre le couteau à droite, je l'ai apprise dans ce contexte-là, et donc c'est une manière pour moi de raconter cette espèce d'entre-deux entre l'endroit d'où moi je venais, qui était donc une cité en France, et un contexte voilà qui est celui d'une famille marocaine avec d'autres voilà une autre culture quoi. Et ce déplacement, le fait de sortir de ce quartier et de découvrir, d'une certaine manière, de découvrir la France, quoi.
Donc sur les différences culturelles qu'on peut retrouver finalement au sein d'un même territoire.
Exactement.
C'est sur cela que ça porte. Et donc vous allez donc présenter ce projet. Où en est votre projet, à quel stade pour le moment?
Alors en fait, pour ce projet, donc le point de départ du projet est, comme je le raconte, un point de départ autobiographique. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire une fiction. Et donc j'en suis vraiment au début. J'ai commencé à faire un peu des recherches aux archives. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire le portrait d'un quartier périphérique à travers le destin de deux sœurs. Donc l'une qui va rester dans le quartier, qui va jamais en sortir et qui va travailler dans le nettoyage, et l'autre qui va sortir du quartier et qui serait plus une sorte de double de ma propre de moi-même quoi, de ma trajectoire, et qui est donc ce personnage qui se retrouve à travailler dans cette famille et à découvrir qu'on met le couteau à droite quand on met la table. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, à lire un peu des choses, puisqu'en fait ces deux personnages ont aussi deux figures. Des sortes, en gros, à chaque fois qu'elles sont en crise, à chaque fois qu'elles ont un rapport au réel qui est difficile, qu'elles doivent prendre une décision dans leur vie, ces deux sœurs, elles ont une sorte de figure tutélaire, d'ange gardien qui apparaît, qui est un peu comme un fantôme, mais qui est plutôt une figure protectrice. Et donc pour l'une des deux, c'est une mystique soufie du 8e siècle qui s'appelle Rabia al-Adawiya, qui est donc une femme qui a eu des révélations comme ça en lien avec... avec l'amour de Dieu, on va dire, qui s'est retiré dans le désert, etc. Et puis l'autre sœur voit apparaître une poétesse américano-libanaise qui s'appelle Ethel Ednan et qui est une poétesse qui vient de décéder et qui a donc vécu, qui est née en 1925 et qui est du coup une figure comme ça qui a vécu entre l'Orient, l'Occident, plusieurs langues, l'arabe, le grec, le français, l'anglais, puisqu'elle a vécu aux États-Unis pendant la guerre du Liban et elle a été formée en France à la Sorbonne en philosophie et donc voilà.
Et donc vous parliez donc d'un des deux personnages qui serait votre double en quelque sorte. Peut-être qu'on peut aborder justement ce sujet-là de à quel point la réalité va infuser dans votre travail de fiction, puisque vous dites que vous en faites une fiction à la fin, mais qui est quelque part très fortement autobiographique, de ce que je comprends.
Oui, alors le réel est toujours transformé en fait dans les textes que j'écris, que ce soit des textes avec une dimension autobiographique ou ça a été le cas aussi avec un autre texte que j'ai écrit dans la Drôme qui s'appelle Commune, où j'ai voulu un peu explorer la question de la néo-ruralité. Qu'est-ce que c'est d'être, d'arriver dans un territoire tout en ayant un lien avec un autre espace qui est donc une cité, donc je pars aussi toujours des espaces que je connais et le fait d'être aussi une personne qui n'est pas blanche, qui a des origines liés à l'immigration et qui se retrouvent dans un espace comme ça où la majorité des personnes qui vivent dans ces campagnes-là sont des personnes blanches, pas forcément que françaises. D'ailleurs, il y a beaucoup d'immigration européenne aussi dans ces histoires de néo-ruraux. Et donc, ça m'intéressait d'explorer ça. Et donc là, j'ai écrit à partir d'entretiens que j'ai menés sur la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux dans la Drôme, en lien avec la Comédie de Valence. Et donc, il y a toujours un processus comme ça. Je viens de voir l'expo sur les parfums là, au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Il y a un processus un peu de distillation, d'alchimie, de transformation, de macération aussi du réel dans ce qu'on cherche à raconter. Et par exemple, dans À droite le couteau, je m'intéresse à une période qui va en gros de 1989, donc la chute du mur de Berlin, à 2001, le 11 septembre, parce que pour moi, c'est important aussi de revisiter une période avec laquelle on a suffisamment de distance aussi. C'est aussi la manière que j'ai de me plonger comme ça dans un réel, mais qui ne se confond pas avec l'actualité, quoi. Oui, même s'il y a des échos, évidemment.
Oui, un réel qui est un petit peu mis à distance par le temps, tout simplement.
Exactement. Et c'est en ça aussi que le fait d'être en résidence, par exemple, dans un lieu comme Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est un endroit que je ne connais pas, où il y a une dimension aussi spirituelle et mystique qui a présidé à la création de ce lieu, quoi. Enfin, c'est encore très, très présent dans l'histoire du village. Pour moi, c'est super intéressant pour m'amener justement dans un travail de transposition, de revisiter aussi la mémoire, par exemple, de cette mystique dont je parlais, qui était en Irak au 8e siècle, mais qui a vécu finalement des expériences mystiques qu'on pourrait rapprocher de celles de Saint-Antoine, quoi, le patron de l'abbaye qui est juste derrière moi.
Donc beaucoup de passerelles, d'après ce que je comprends, entre votre lieu de résidence finalement et votre travail. Donc vous parliez d'infusion qui se fait, en tout cas d'imprégnation dans le fait d'être à un endroit en résidence. Et donc là, cette année, vous avez été en résidence à Texte en l'air, donc à Saint-Antoine-l'Abbaye.
Alors pas encore. En fait, c'est Laetitia Adjanoun qui termine sa résidence. Et moi, je commence ma résidence le 25 septembre. Donc je serai en résidence, il y a deux temps de résidence. Je serai en résidence du 25 septembre au 13 octobre. Puis je reviendrai du 13 novembre au 2 décembre. Voilà, commence en fait le projet, ouais.
Donc vous vous croisez avec Laetitia Adjanoun ou vous êtes là en même temps pour votre résidence ?
Alors en fait, c'est ce qui est très bien pensé avec Texte en l'air, c'est qu'en fait on se croise cette semaine. On anime un atelier commun pendant la nuit de l'écriture donc qui a lieu demain soir à partir de 23h30. Et on a plusieurs rendez-vous dimanche. En fait, elle fait sa sortie de résidence à 14h et moi, je présente mon projet de résidence pour la suite.
Donc ça fera une sorte de transmission ou de transition entre vos deux projets.
Exactement.
Et vous évoquiez donc la nuit blanche de l'écriture qui est effectivement donc un des temps forts du festival et donc qui débute ce vendredi 28 juillet à 23h30 et dure toute la nuit, donc avec un réveil textuel le samedi matin dans le jardin du musée. Comment envisagez-vous ce rendez-vous ?
Comme un petit marathon. En fait, c'est ce que je trouve génial avec cette idée, c'est qu'en tant qu'autrice, on a l'habitude d'écrire la nuit. Enfin, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive quand même assez souvent qu'on se retrouve à passer la nuit à écrire seule. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est de partager ce processus d'écriture avec tout un groupe. Évidemment, à partir des exercices, des jeux d'écriture, etc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de... finalement d'assez chouette à rompre un peu cette solitude d'autrice à la fois en partageant cette expérience à deux autrices puisqu'on conçoit aussi l'atelier ensemble et là pour le coup on s'est inspiré de l'histoire de l'exposition permanente autour des parfums donc on va écrire à partir de la mémoire olfactive. On a vraiment décidé de s'inspirer aussi du lieu, encore une fois, de partir de là et voilà.
Et donc une ambiance particulière, effectivement, écrire la nuit, vous parliez du fait que vous écriviez souvent la nuit. Est-ce qu'on est plus inspiré la nuit, tout simplement ?
Moi, je trouve qu'on est plus inspiré la nuit parce que je viens aussi d'une culture où la présence des invisibles est importante. Et en fait, la présence des esprits dans la culture marocaine. Il y a bon, toute l'histoire des djinns et tout ça. C'est vrai que la nuit, il y a une ambiance particulière. Quoi. Bon, après, il y a la culture marocaine, mais il y a aussi, enfin, je veux dire, la présence des invisibles. La nuit, les fantômes, etc., c'est quand même quelque chose qui est assez présent. Et je trouve que quand on fait du théâtre, on travaille beaucoup avec cette présence justement des fantômes, des invisibles, des personnes qui sont plus là. Puisque, donc, j'ai dit qu'il y avait un des deux personnages qui était une sorte de double de moi-même, mais la sœur est aussi une évocation de ma propre sœur, en fait, qui, elle, est décédée en 1994, quand elle avait 27 ans. Et donc, il y a aussi une manière de convoquer des morts dans les textes, quoi. Et je suis pas la seule autrice à travailler à partir de ça, quoi. Shakespeare le faisait déjà avec Hamlet...
Eh bien, merci beaucoup. Donc, cette nuit blanche de l'écriture, donc, qui est l'un des rendez-vous où l'on peut vous retrouver durant le festival. Il y a en fait trois rendez-vous, si je compte bien. Donc, un thé ou café, qui est une sorte de rencontre lecture, donc ce vendredi 28 juillet à 14h, auquel vous participez. Donc, également la nuit blanche de l'écriture, je le disais, donc à partir de 23h30 et donc toute la nuit jusqu'au samedi matin. Et enfin, donc, la lecture pour la sortie de résidence donc, de Laetitia Ajanoun, donc dimanche 30 juillet à 14h, où vous présenterez donc également votre nouveau projet à droite, le couteau. Merci beaucoup, donc Karima Elkaraz, l'une des deux autrices en résidence à Texte en l'air pour l'année 2023. Merci de nous avoir présenté donc, votre projet.
Merci.
Bonne journée. Poursuivons donc cette émission en public depuis le festival Texte en l'air qui se déroule donc à Saint-Antoine-l'Abbaye jusqu'au 30 juillet. Et nous accueillons maintenant autour de la table Lucas et Luna. Bonjour Lucas, bonjour Luna.
Bonjour.
Lucas et Luna, vous avez fait partie donc du programme Jeunes en immersion qui est une spécificité du festival Texte en l'air et qui propose à des jeunes du territoire de mêler théâtre et bénévolat. Alors si je comprends bien l'expérience, l'année dernière, vous avez fait partie donc, du groupe qui participait au stage de théâtre, donc encadré par le metteur en scène Bastien Chrétien. Et cette année, donc, vous êtes plus du côté bénévolat. Donc est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment s'est déroulé le stage l'année dernière ?
Eh bien, ça s'est très bien passé. Le matin, on avait des stages, des ateliers de théâtre, où on a découvert une pièce de l'auteur en résidence de l'an dernier, l'autrice, Caroline Stella. Et tous les matins, on avait des ateliers pour connaître un peu la pièce et ensuite faire une restitution le dernier jour du festival. On a aussi assisté à tous les spectacles payants. Et puis on a rencontré des personnes du monde du spectacle, des professionnels.
Une vraie immersion théâtrale, en fait, tout au long du festival.
Ouais, carrément.
Et comment s'est passée la restitution, alors, l'année dernière ?
Eh bah, très bien, on a réussi à tout mettre en place. On était très contents et... Il y avait pas mal de monde et tout s'est très bien passé, donc c'était vraiment cool.
Et est-ce que c'était votre première expérience théâtrale à tous les deux ?
Eh ben, on avait fait le stage une première fois.
L'année d'avant, et puis moi j'avais déjà fait un peu de théâtre quand j'étais à l'école. J'avais fait une ou deux fois.
Et pas moi.
Voilà.
Presque une première expérience. Et comment aviez-vous entendu parler de ce stage à Texte en l'air ?
Alors moi, je suis arrivé ici déjà il y a 5 ans avec, par rapport au collège. C'est ma prof documentaliste, Raphaël, qui nous a dit qu'il y avait le festival et qu'on pouvait être bénévole. Du coup, j'ai fait la première année en tant que bénévole et j'ai appris l'année d'après qu'il y avait le stage jeune. Du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer et on verra bien.
Ma mamie habite dans le village depuis plus de 10 ans. Donc, ça fait vraiment pas mal d'années que je viens ici et mes cousines ont fait le stage avant moi. Et puis, bah, après, quand j'ai eu l'âge, je l'ai fait et voilà.
Et est-ce que le fait de voir donc, tous ces spectacles de théâtre dans le cadre du festival a permis pour vous peut-être de mieux connaître le théâtre, d'aiguiser votre regard ?
Ben, c'est vrai qu'on se dit avec notre regard de jeune que c'est pas trop intéressant le théâtre forcément, que c'est mieux d'aller au cinéma voir des films ou je sais pas. Mais j'aime beaucoup voir des pièces, spectacles et ça m'a, on va dire, ouvert mon horizon de possibilités au niveau artistique.
Ouais, bah ça permet de voir aussi tout ce qui se passe en amont, de comment on prépare les pièces et puis bah ce qui peut se passer après et tout ce qu'il y a qu'on voit pas quand on est juste spectateur et c'est bien de découvrir tout ce qu'il y a autour.
Vous avez découvert en quelque sorte les coulisses du théâtre.
Ouais, totalement.
C'est ça.
Mais aussi les coulisses du festival puisque je crois que l'après-midi, donc l'année dernière, vous donniez déjà un coup de main en tant que bénévole au festival.
Exactement.
Ouais. Avec quel genre de tâches par exemple ?
Ben quand on est au stage, on fait des petites tâches du coup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. donc plus déplacer des chaises d'un lieu à l'autre pour les programmations de la semaine, ou alors faire le comptage des gens qui rentrent dans la salle de spectacle, des choses assez simples on va dire, contrairement à là maintenant en tant que bénévole.
Parce que donc cette année vous êtes revenu en tant que bénévole à 100%, et là que votre rôle a un petit peu changé cette année.
C'est ça,
un
peu, ouais. On a plus de responsabilités et plus de choses à faire.
Par exemple, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type de bénévole à Texte en l'air ?
Par exemple, moi je suis arrivé, c'était lundi, on a dû terminer de monter le plancher de la buvette, terminer de tout ajuster, de monter les gradins. On a dû accueillir les techniciens et leur donner un petit coup de main aussi des fois. Accrocher toutes les décorations, les banderoles. Commencer à récupérer des objets pour la buvette. Faire des courses.
Donc vous êtes sur place depuis lundi, tous les deux ?
C'est ça.
Ouais.
Le festival ayant débuté mercredi, donc c'était deux jours de préparation avant.
C'est ça. Mais ils ont commencé à monter le festival vendredi, je crois.
Ah oui, bien en amont alors.
Ouais.
C'est ça, c'est beaucoup de travail.
Bon, et votre bilan, est-ce que vous reviendrez l'année prochaine ?
Bah bien sûr.
Oui.
Évidemment, oui.
Eh bien, merci beaucoup Lucas et Luna. Donc vous avez 19 ans tous les deux et vous avez participé donc au stage jeune en immersion, un stage de théâtre donc dans le cadre du festival Texte en l'air qui mêle théâtre et bénévolat. Bonne journée.
Merci.
Merci.
Un grand merci donc à tous nos invités du jour pour cette émission spéciale Texte en l'air, donc le festival qui se tient jusqu'au 30 juillet à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et je vous propose de se quitter en musique maintenant avec un titre de Baptiste Giuliano, alias Bat, à découvrir en concert ce soir, vendredi 28 juillet à 19h30, dans la grande cour de Saint-Antoine. Il s'agit du titre Sans bruit. On écoute.
Ça s'est passé sans faire de bruit. Un goutte à goutte sans qu'on ne l'essuie. Tout n'est plus tout à fait à la même place. Regarde comme l'on se passe, à côté sans que rien ne se passe. Comme de l'un et de l'autre, on sait désormais se passer. On n'est pas sans passé, on en a passé. Tout pris, tout donné, c'était beau. Ça n'arrive qu'une fois et on l'a fait. D'ailleurs, on a quasi tout fait, jusqu'à s'étouffer. Ce n'est pas cette fille que je fixe, mais comment ils se regardent et s'embrassent. Ce n'est pas cette fille qui me trouble, mais la beauté de leur état de grâce. Ne t'embarrasse pas à faire semblant, à croire que ce n'est qu'un moment, que ce n'est pas moins bien qu'avant, mais juste différent. Regarde comme tout est un effort, même quand tu demandes du réconfort. Comme l'on rame à ramasser les bouts de nous qui nous lient encore. Combien de temps et surtout comment on est prêt à faire écran, à fermer les yeux sur ce qui nous attend. Mais perdu dans mes pensées, incapable de t'en parler, je reste planté là face à toi, le regard au-delà. Ce n'est pas cette fille que je fixe, mais comment ils se regardent et s'embrassent. Ce n'est pas cette fille qui me trouble, mais la beauté de leur état de grâce. Ce n'est pas cette fille que je fixe, mais comment ils se regardent et s'embrassent. Ce n'est pas cette fille. Si je reste, je me trompe, je me trompe. Si je m'en vais, si je reste, je me perds. Je te perds si je m'en vais. En restant, je renonce. En partant, je renonce. Si je parle, je me trompe. Je me trompe si je me tais.